السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، en cette soirée du 14 du mois de Rabi' al-Thani de l'an 1437 de l'égir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 23 janvier 2016, nous entrons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le 31e cours de l'étude des leçons importantes pour toute la communauté du Cheikh Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde et le récompense de la plus belle des manières. Nous sommes toujours dans la 15e leçon en relation avec les bons comportements que tout musulman doit avoir. Et nous nous sommes arrêtés sur la sincérité. Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, sur la véracité plutôt. Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, va passer maintenant à la citation d'un autre comportement qui est Al-Amana, c'est-à-dire l'honnêteté. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, nous parle de ce noble comportement qui est l'honnêteté. Et le Cheikh Abdul Razzaq Al-Badr, hafidahullah, qu'Allah le préserve, nous explique que l'amana, en réalité, c'est quelque chose de plus vaste. L'amana, c'est le dépôt, le fait de se montrer honnête devant un dépôt qui nous est confié. Et le dépôt, dans la religion, a deux sens. Un sens général et un sens particulier. Dans son sens général, il s'agit de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est considérée comme un dépôt par Allah, tabaraka wa ta'ala, et que l'on doit donc respecter. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 72 de Suratul Ahzab, les coalisés, « Inna aradna al-amanata ala al-samawati wal-ardi wal-jibal » فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Selon le sens rapproché, il nous dit, subhanahu wa ta'ala, nous avons proposé de confier la charge, le dépôt, aux cieux, à la terre et aux montagnes. Toutes ces créatures ont refusé de porter cette charge et en ont eu peur, alors que l'homme, lui, s'en est chargé. Il est certes très injuste et très ignorant. Le dépôt, dans son sens général, c'est la religion d'Allah. Toute la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est comme une amana, comme un dépôt qui nous est confié. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer. Il nous a donné l'existence sur terre afin qu'il soit obéi par nous autres. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est un dépôt que tout musulman et tout croyant se doit d'honorer, et avec lequel il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens devant ce dépôt qui est la religion se sont divisés en trois catégories de personnes, citées par Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset suivant de la même sourate, où il nous dit « لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا » afin qu'Allah châtie les hypocrites hommes et femmes, les polythéistes hommes et femmes, ou qu'il accueille le repentir des croyants hommes et femmes. Après avoir cité le dépôt, Allah tabaraka wa ta'ala a cité trois catégories de personnes, les hypocrites, les polythéistes et les croyants. Quant aux hypocrites, ce sont ceux qui se sont montrés en apparence sous la forme de celui qui maintient, qui préserve ce dépôt, qui applique la religion, qui n'outrepasse pas les limites fixées par Allah. Deuxièmement, il y a les polythéistes, ceux qui n'ont accepté le dépôt d'Allah ni dans leur apparence, ni dans leur fort intérieur. Et troisièmement, les croyants qui, eux, se sont efforcés de préserver le dépôt qu'Allah leur a confié. Ils ont mis en pratique la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en apparence et même dans leur cœur, dans leur fort intérieur. et ce sont les gens de la foi. Il fait partie du dépôt également, dans son sens pas plus particulier, le fait de donner les droits à chacun de ses ayants droit, le fait de se montrer loyal lorsque l'on a donné notre parole, le fait de protéger nos cinq sens et les membres de notre corps sur lesquels on sera interrogé. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 36 de sourate Al-Isra, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'oula. Ce qui veut dire, certes, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, il sera interrogé. Sur toutes ces choses-là et d'autres encore, l'homme sera interrogé. Car Allah tabaraka wa ta'ala nous a confié ce dépôt qui est le corps. Il nous a confié les membres, il nous a confié les cinq sens, il nous interrogera. Comment a-t-on agi avec ce dépôt qu'il nous a confié? Est-ce dans le bien ou dans le mal? Parmi le dépôt également, il y a les biens que l'on possède, sur lesquels on sera interrogé. De même, nos enfants. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate Al-Anfal, sourate le butin, « Ya ayyuhal ladhina amanu la takhounu allaha wa rasoola wa takhounu amanatikum wa antum ta'lamoun. » Ô vous qui avez eu la foi, ne trahissez pas Allah et son messager, et ne trahissez pas les dépôts qui vous ont été confiés, alors que vous savez. Puis il dit, « Wa'alamu annama amwalukum wa awladukum fitna, wa anna allaha indahu ajrun azim. » Et sachez qu'en réalité, vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation pour vous, et qu'auprès d'Allah, il y a une énorme récompense. Les biens et les enfants sont un dépôt confié par Allah. Ils sont en même temps une source de trouble, une tentation, un test d'Allah, afin qu'il voit comment va-t-on se conduire avec les biens que l'on possède et les enfants qu'il nous a donnés, subhanahu wa ta'ala. Parmi les comportements islamiques, Al-Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, cite la chasteté. La chasteté est le fait de se contenir, de se préserver de tout ce qui est interdit par Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah a dit dans Surat An-Nur, le verset 33, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Et que ceux qui ne trouvent pas de quoi se marier préservent leur chasteté jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par sa grâce. Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à l'homme, tout comme la femme, d'être chaste, de préserver sa chasteté, de protéger ses parties intimes. C'est un comportement aimé d'Allah et auquel il nous appelle, subhanahu wa ta'ala. Il y a également, dans le sens du mot « afaf » que l'on a traduit par la chasteté ou la continence, le fait de se contenir, c'est-à-dire de ne pas tendre la main à l'autre et de ne pas demander à l'autre ce qu'il possède, comme beaucoup de gens le font aujourd'hui alors qu'ils ne sont pas dans le besoin. Ils passent leur journée à tendre leurs mains aux portes des mosquées et seul Allah connaît le contenu des cœurs, subhanahu wa ta'ala. Mais le croyant doit être fier, il doit chercher sa subsistance et s'efforcer de fournir tous les efforts possibles pour avoir de la part d'Allah sa subsistance qui en réalité lui a déjà été décrétée et écrite par Allah, subhanahu wa ta'ala. Le musulman a le cœur attaché à son créateur et ne sollicite que son pourvoyeur, Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les comportements islamiques cités par le Cheikh Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, il y a la pudeur. Et la pudeur, comme le dit le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, est un noble comportement par lequel le croyant s'embellit. Et c'est un comportement qui le pousse à agir dans le bien et l'éloigne de toute immoralité et de toute chose mauvaise, nuisible et détestée par Allah, tabaraka wa ta'ala. Car la personne qui en réalité n'est pas pudique et qui n'a pas un minimum de pudeur, c'est cette personne que nous allons voir désobéir à Allah et faire des choses qu'Allah n'aime pas, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. C'est-à-dire, parmi les paroles héritées par les gens des premiers prophètes, il y a ces paroles. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que bon te semble. Les prophètes disaient à leur peuple, si tu n'es pas pudique, si tu n'as pas un minimum de pudeur, alors fais ce que bon te semble. C'est-à-dire que lorsque l'individu n'a pas de pudeur, il va suivre ses passions, il va assouvir ses désirs, sans pour autant regarder s'il va faire des choses indécentes, des choses détestées par Allah ou non, car il n'aura plus ce beau vêtement qui est la pudeur par lequel il avait habillé son cœur. Et certes, la pudeur a différentes catégories, et sans le moindre doute, la plus grande forme de la pudeur, c'est d'éprouver de la pudeur envers le Seigneur des mondes, le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah ne voit pas son serviteur où il l'a interdit d'aller, ne l'entende pas dire ce qu'il lui a interdit. Le serviteur doit de façon constante rester pudique envers Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons radiyallahu anhum dans le récit rapporté par l'imam Ahmad et d'autres, jugé authentique par l'imam al-Albani rahimahullah, استحيوا من الله حق الحياء. Éprouvez la réelle pudeur. Soyez pudique comme il se doit envers votre Seigneur. Les compagnons lui diront, messager d'Allah, nous sommes pudiques envers Allah. Walhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors, ولكن ليس ذلك. Ce n'est pas de cela que je parle. ولكن الاستحياء من الله حق الحياء. Mais avoir la véritable pudeur envers Allah, أن تحفظ الرأس وما وعى consiste à préserver ta tête et ce qui s'y trouve. والبطن وما حوى le ventre et ce qu'il y a autour. والتذكر الموت والبلا et rappelle-toi de la mort et de la délabration. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا et quiconque espère la demeure dernière délaisse la parure de cette vie d'ici-bas. Voici la véritable pudeur envers Allah, de préserver la tête et ce qui s'y trouve. Il se trouve dans la tête les yeux, la bouche avec la langue, le nez et les oreilles. L'homme, le serviteur d'Allah, doit donc préserver ses yeux de voir ce qu'Allah lui a interdit, ses oreilles d'écouter ce qu'il a interdit, sa langue de prononcer ce qu'il a interdit, le ventre et ce qu'il y a autour, les parties intimes et le fait de manger ce qui est illicite. Il doit également se rappeler la mort et la rencontre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Fait également partie de la pudeur envers les serviteurs, d'avoir de bons comportements envers eux, de ne pas tricher, de ne pas être malhonnête envers eux. Parmi les comportements islamiques, il y a également ash-shaja'a, c'est-à-dire le courage. Quand le courage est utilisé là où il faut et quand il faut, c'est quelque chose d'aimé par Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais si le courage est utilisé pour désobéir, alors c'est quelque chose de détestable et de réprouvable. Et quand le croyant se montre courageux, le courage dont il fait preuve est le fruit de la foi qui habite son cœur, de la confiance qu'il a de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et du fait qu'il ne craint personne d'autre que Allah. Il ne demande à personne d'autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le courage, c'est aussi le fait de savoir se contenir et de ne pas se laisser emparer par sa colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abu Huraira et ainsi que l'imam Muslim rahimahumullah. Il nous dit, l'individu fort et rude n'est pas celui qui sait vaincre les autres, mais l'individu fort et rude est celui qui sait se contenir pendant qu'il est en colère. Voici la véritable force. Le courage est quelque chose d'aimé par Allah, car il pousse le croyant à être véridique, à ne pas craindre autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parmi les comportements islamiques, al-karam, la générosité. La générosité, que ce soit le fait de faire don de ses biens, des biens que l'on possède, de se montrer généreux ou alors d'être généreux par les bons comportements que l'on a envers autrui. Et la générosité du musulman à l'égard de son frère, le fait de l'aider, de lui tendre la main pour lui proposer ce dont il a besoin, tout ceci est aimé par Allah. Car en réalité, l'individu avare a une des caractéristiques les plus mauvaises. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate At-Taghabun, la grande perte, verset 16, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et quiconque est préservé de l'avarice de son âme ou de son être, ces gens-là auront la véritable réussite. Il est rapporté que certains des pieux prédécesseurs qui accomplissaient At-Tawaf, la circumambulation, autour de la maison sacrée Al-Ka'ba, on les entendait, ils ne prononçaient qu'une seule et même invocation et disaient Allahumma qini shuhha nafsi, oh Allah, préserve-moi de l'avarice de mon être, préserve-moi d'être avare. Les gens à leur côté leur disaient, je t'entends et je vois que tu ne fais que répéter une seule et même invocation. Et eux répondaient, oui, car Allah Azza wa Jal a dit dans le sens du verset, et celui qui est protégé de l'avarice de son âme, ceux-là sont ceux qui réussiront. Parmi les comportements islamiques, il y a al-wafa, la fidélité aux engagements, car Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate al-Ma'ida, Ya ayyuha alladhina amanu, awfu bil'uqud, ô vous qui avez eu la foi, soyez fidèles à vos engagements. Ainsi, quand le musulman contracte ou fait un engagement, il doit le tenir et se montrer fidèle, que ce soit un contrat de mariage, un contrat de vente ou d'achat et toute autre forme de contrat qu'il se doit d'honorer et devant lequel il doit se montrer le plus fidèle, car c'est une des caractéristiques par lesquelles s'embellit et se pare le musulman. Walillahi alhamd. Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, nous dit والنزاهة عن كل ما حرم الله, l'éloignement de tout ce qu'Allah a interdit. Le musulman doit s'efforcer d'être le plus loin possible de ce qu'Allah a prohibé, par crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, par crainte de son châtiment. Le musulman doit être pur et s'éloigner des choses mauvaises, de toutes les formes d'immoralité. Al-Sheikh Ibn Baz nous dit le bon voisinage est un comportement islamique qui doit être adopté par le musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma zala jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayawrithuh, rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, où il dit l'ange Jibril n'a cessé de me faire des recommandations à l'égard du voisin jusqu'à me laisser penser qu'il allait lui donner une part de mon héritage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi Wallahi la yu'min, par Allah il n'est pas croyant, par Allah il n'est pas croyant, par Allah il n'est pas croyant. Qila wa man ya Rasulallah, les compagnons dirent mais qui, ô messager d'Allah? Mais qui donc, ô messager d'Allah? Et lui de répondre, sallallahu alayhi wa sallam, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqa, celui dont les voisins ne sont pas à l'abri de ses nuisances. Fait partie du bon comportement envers le voisin de le protéger de ses nuisances, que ce soit des nuisances physiques ou verbal. Protéger les droits du voisin en obéissance à Allah, se montrer bienfaisant envers ce dernier. Le Cheikh Ibn Baz rahimahullah continue wa musa'adatu dhawi al-hajati hasb al-taqa, c'est-à-dire l'aide à ceux qui sont dans le besoin selon la capacité. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah ne cesse d'aider son serviteur tant que ce dernier aide son frère. Il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam: Wa man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabi ad-dunya, naffasa Allahu 'anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Et quiconque dissipe une calamité ayant atteint un croyant dans ce bas monde, Allah lui dissipera une calamité parmi celles du jour de la résurrection. Et certes, les savants disent: Inna al-jaza'a min jinsil 'amal. La rétribution qu'Allah te donnera sera proportionnelle à tes actes que tu avais accomplis. Ainsi, si tu dissipes une calamité, si tu es la cause par laquelle Allah a enlevé une souffrance qui avait touché un de tes frères, Allah t'enlèvera une souffrance qui sera susceptible de te toucher le jour dernier. Cheikh Ibn Baz rahimahullah nous explique qu'il y a beaucoup d'autres comportements. Il nous dit ainsi que d'autres comportements indiqués par le Coran et la Sunna. Ils sont très nombreux et ce n'est qu'à titre d'exemple que le Cheikh ici les a en a cité quelques-uns. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits par les savants de l'islam traitant du comportement. Et un des meilleurs, comme l'a dit le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, est celui de l'imam al-Bukhari, intitulé « Al-Adab al-Mufrad ». C'est un livre de l'imam al-Bukhari qui traite du comportement qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam. Et ainsi s'achève la 15e leçon. 16e leçon: At-ta'addubu bil adab al-islamiyya. Se parer des bienséances islamiques. Les bienséances islamiques, ce sont des choses qui entrent dans le comportement, mais qui sont plus particulières. Des bienséances lors de choses bien précises, des façons d'agir, des façons de parler, des façons de se comporter dans des cas bien précis. Ce sont donc des choses particulières qui entrent de manière générale dans le comportement également. C'est la politesse islamique. Le Cheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala nous dit: At-ta'addubu bil adab al-islamiyya wa minha as-salamu wal bashashat wal aklu bil yamini wal shurbu biha wal tasmiyatu 'inda al-ibtida'. Parmi ces règles de politesse, saluer les gens, montrer un visage souriant, manger avec la main droite, boire avec la main droite, dire Bismillah en début de repas, dire Alhamdulillah à la fin du repas, dire Alhamdulillah après avoir éternué, répondre à celui qui éternue et dit Alhamdulillah, lui répondre en lui disant « Yarhamukallah », rendre visite aux malades, suivre les cortèges funéraires, prier sur les morts et assister à leur enterrement, dire les invocations rapportées en entrant à son domicile et en sortant, en entrant à la mosquée et en sortant, dire les invocations du voyage, les bons comportements avec les parents et les proches, les félicitations pour une naissance, les félicitations pour un mariage, les condoléances lors ou après un décès. Ce sont donc des règles de bienséance islamique que nous allons traiter, incha'Allah ta'ala, au prochain cours. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك.